Avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort au micro de Jean-Pierre Benoît. Mais avant tout cela, réglez vos montres, il est tout juste 10h sur RCF Reims-Ardennes.
RCF, il est 10h.
Bonjour à tous les auditeurs de RCF. Aujourd'hui, nous recevons deux étudiants pour nous parler des stages. Donc, d'un côté, Yazid. Bonjour Yazid. Étudiant en deuxième année de PTS Communication au lycée Saint-Michel. En stage actuellement durant 2 mois à l'ICP. Et de l'autre, Chloé. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Étudiante en deuxième année de licence Sciences de l'Éducation à l'ICP qui revient d'un stage dans un établissement scolaire. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Donc Yazid, on va un petit peu commencer par vous. Pourquoi avoir choisi de faire votre stage à l'ICP ?
Alors, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. L'ICP, pourquoi ? De base, pour être honnête, c'était pas ma première idée, entre guillemets. C'était une autre entreprise.
Donc votre premier choix, c'était une entreprise dans le sport ?
Oui, c'est ça. Le Five, plus précisément. Mais jusqu'à ce qu'une camarade de classe m'a parlé de l'ICP, que des aspects positifs. Du coup, je me suis dit pourquoi pas l'ICP. Elle m'a parlé de ses missions, ce qu'elle a dû réaliser durant son stage. Pourquoi pas ? Je me suis lancé dans l'ICP.
Et maintenant, vous êtes du coup parmi nous durant 2 mois.
C'est ça.
Et vous, Chloé, de votre côté, vous avez choisi de faire un stage à l'établissement scolaire. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ce stage et pourquoi vous avez fait ce choix ?
Mon choix, personnellement, il est assez logique. C'est parce qu'en fait, je suis en licence sciences de l'éducation. Et j'ai comme projet d'être dans l'encadrement éducatif, peut-être personnel de direction, etc. Donc, un établissement scolaire, pour moi, c'était...
Une évidence.
Essentiel, une évidence, exactement. Donc, tout simplement, c'est pour mon projet professionnel, pour pouvoir découvrir l'organisation d'un établissement scolaire, le rôle des différentes personnes qui sont au sein de l'établissement, comme par exemple un CPE avec qui j'ai fait mon stage.
Donc vous avez fait votre stage avec un CPE, c'était dans quel établissement ?
C'était au collège Colbert à Reims.
Et est-ce que du coup ça vous a un petit peu permis d'affiner votre choix professionnel ?
Affiner mon choix professionnel, oui et non, parce que mon choix professionnel s'est fait lors de mon second stage l'année dernière. J'ai fait un premier stage dans l'enseignement et un second stage dans l'encadrement éducatif. Et ça a été plutôt révélateur, j'ai largement préféré mon deuxième stage en encadrement éducatif, par exemple le rythme de travail que je préfère dans l'établissement, être vraiment dans l'établissement, être au contact des élèves, etc. Et d'être éducateur et pas que enseignant.
Donc c'est votre troisième stage. En licence sciences de l'éducation, vous faites 2 stages par an. Dans quel établissement vous l'avez fait ? Donc vous m'avez dit dans l'enseignement, c'était en maternelle, primaire, collège ?
Mon premier stage, je l'ai fait en maternelle et primaire. En fait, j'ai eu un stage de 2 semaines où la première semaine, j'ai principalement fait en maternelle. Et la deuxième semaine, donc sur les 5 jours, j'ai fait CP, CE1, CE2, CM1, CM2.
D'accord.
Donc j'ai fait toutes les classes. Et mon second stage, donc j'étais en collège catholique privé à Notre-Dame, à Reims toujours.
Et là, vous avez découvert donc, le métier d'encadrement éducatif.
Là, j'ai découvert à ce moment-là donc, le métier de responsable de vie scolaire. Donc, c'est un métier semblable à CPE, mais au sein d'un établissement privé. Et ensuite, j'ai eu comme conseil de maître de stage de découvrir le métier de responsable de vie scolaire / CPE à travers différents établissements. Parce qu'en fait, en fonction de l'établissement, c'est le même métier sans vraiment être le même métier. Parce qu'il y a différentes problématiques, etc., en fonction des établissements. Donc j'ai décidé, pour mon troisième stage, donc mon premier stage en deuxième année, de prendre un stage dans le public. Et donc j'ai été dans un collège public REP+.
Et la prochaine étape, c'est le lycée ?
Oui, plutôt le lycée. Donc peu importe, lycée public, privé ou... du professionnel, etc. Pour moi, c'est le but, c'est l'enrichissement.
Donc vous, Chloé, vous nous avez dit donc, que ça vous avait permis un petit peu d'affiner votre choix professionnel. Yazid, c'est pas votre premier stage également, vous avez fait d'autres stages.
C'est ça.
Dans quelle structure vous avez fait vos autres stages ?
Alors, il faut savoir que durant ma première année, j'ai réalisé mon stage de première année, du coup, dans deux entreprises. Petit restaurant Marcel et Jane, qui est à 5 minutes de l'ICP, et le salon de coiffure L'Indiscipliné, qui est juste en face.
À chaque fois, c'était des missions dans la communication ?
Alors, pour Marcel et Jane, c'était, oui, de la pure communication, notamment le digital sur les réseaux sociaux. Et pour le salon de coiffure, c'était plus de l'événementiel avec l'organisation de leur journée annuelle de la solidarité.
Et est-ce que ça vous a permis d'affiner vos choix professionnels ?
Oui, on peut dire ça. J'ai beaucoup aimé mon deuxième stage au sein du salon de coiffure avec de l'événementiel, l'organisation, la préparation et l'événement, tout simplement.
Donc plus tard, vous aimeriez travailler dans l'événementiel ?
Oui, pourquoi pas au sein d'une structure sportive de préférence.
Donc c'est vrai que le stage, ça vous permet de faire un premier pas dans la vie professionnelle. Est-ce que tous les deux, vous avez été surpris des fois ou de la différence entre les cours et la vie en entreprise ? Ou durant vos stages, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris ou vous avez trouvé ça inhabituel ?
Je dirais pas surpris, mais c'est vrai que c'est pas pareil entre les cours et être en stage, c'est sûr. Mais pas surpris, non.
Vous préférez être en stage ou vous préférez être en cours ?
Bonne question. J'irai plus en stage, parce que je pense qu'on apprend plus en stage qu'en cours, dans le monde du travail, je parle.
C'est comparable sans vraiment l'être, enfin, après c'est mon avis, parce que ce que j'apprends en cours, la façon dont j'apprends en cours, c'est enrichissant, mais c'est pas le même enrichissement qu'en stage. C'est-à-dire que
c'est mettre en pratique.
C'est pas qu'il y a des moments, la différence entre la pratique et la théorie, elle est grande. Je peux donner l'exemple, par exemple, de... J'ai un cours, par exemple, sur l'autorité, la sanction, punition, etc. et tout. Donc, c'est un aspect très philosophique dans ce cours-là. Et en fait, quand j'arrive dans mon établissement, donc au collège, quand on parle de punition et sanction, ça n'a rien à voir. Ça va plus être dans vraiment du cadre de punition. Telle personne a le droit de donner une punition, telle personne a le droit de donner une sanction. C'est un peu plus réglementaire avec le code de l'éducation, etc. Alors que moi, ce que j'avais vu en cours, c'était plus l'aspect pédagogique, philosophique de l'impact de la sanction, la punition, la différence entre les deux, etc. Alors que vraiment, entre la pratique et la théorie, ça n'avait presque rien à voir. Et c'est pour ça qu'en fait, faut savoir faire un consensus. C'est prendre en compte les deux et adapter aussi notre vision de comment on voit les choses et se baser à la fois sur la théorie et la pratique, ne pas négliger les deux.
Finalement, vous nous expliquez qu'il y a une complémentarité entre la théorie et la pratique.
Plus ou moins.
Et si vous aviez des conseils à donner à des futurs stagiaires pour tirer le meilleur parti de cette expérience de stage, quels conseils donneriez-vous ?
Soyez actifs, vraiment. N'hésite pas à prendre des initiatives. Je sais que moi, ma première journée de stage, je me suis retrouvée dans le bureau d'un CPE à regarder ce qu'ils faisaient. Pour moi, c'était infaisable. Donc, je me suis mise à aller dans la vie scolaire, faire des tâches de vie scolaire, faire des absences, mettre des retenues, enfin, pas moi, mettre des retenues, mais ranger les retenues, etc. Faire vraiment du travail de vie scolaire, de la permanence, de la surveillance, etc. Faire des réunions, demander à chaque fois que mon maître de stage allait en réunion, je lui demandais si je pouvais venir avec lui, etc. Et en fait, au début, je me sentais un peu mal parce que j'étais pas tout le temps avec mon maître de stage. Du coup, j'observais pas vraiment ce qu'il faisait, alors que c'était un stage d'observation. Mais finalité, c'est qu'après en avoir discuté avec mon maître de stage, c'est qu'il m'a dit qu'en fait, c'était la meilleure des solutions pour apprendre sur le terrain, c'est de découvrir par moi-même. C'est-à-dire que parfois, j'allais voir, par exemple, comment se passait le cours de sport, etc. J'allais faire de la surveillance, j'allais en permanence, j'allais faire une heure de colle, alors que c'était pas mon travail. Mais en fait, ça m'avait vraiment professionnalisé, ça m'avait ouvert les yeux sur le fonctionnement, l'organisation, etc. Parce que, parce que j'étais curieuse de voir comment ça fonctionnait.
De s'ouvrir finalement au fonctionnement entier de l'entreprise ou du collège, pour vraiment voir les complémentarités, les différents services, pour avoir une vision
Et pas juste rester avec le maître de stage et regarder ce qu'il fait, sinon après les journées sont longues, hein, et l'enrichissement est là, mais il pourrait être plus agréable en allant voir plus de monde au sein de l'établissement.
Et vous, Yazid, un conseil à donner ?
Je dirais être curieux et surtout être ouvert, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a.
Mais merci à vous deux. Merci. Dernier mot, est-ce que vous avez un mot pour décrire votre stage ou l'enrichissement que vous a permis votre stage? Ça peut être ce stage actuellement ou d'autres stages. Question difficile.
Après, c'est le, je dirais l'objectif d'un stage, mais je dirais professionnalisant.
Et vous, Yazid?
Autonomie, moi, je dirais.
Très bien. Merci à vous deux. Merci. Et bonne continuation.
Merci.
Pour seul souvenir, donnez l'heure de quoi sourire. Sur la route, au fil de notre terre, mots croisés. Dans le doute, solitaires écouteurs, le vent sifflait. Désuète, cœur en panne. Ça pourrait être autrement. Mais pour vivre, ouais, mais comment? Paris 10 balles sur ses rimes. Du charabia d'oreilles fines. Cache pas ta salive, pipo. T'occupes, je parle aux oiseaux. Sur la route, le cœur à nu et les ailes enlisées.
Barcella nous emmenait sur la route aujourd'hui sur RCF Reims-Ardennes. Sur la route, c'était donc son titre. Et puis juste avant, c'était le magazine de l'ICP Campus de Reims avec Audrey Gineste, avec Chloé et Yazid, deux étudiants qui nous racontaient leur expérience de stage. Il est 10h13, bientôt 14 sur RCF Reims-Ardennes et tout de suite, c'est le jardin d'Hubert le Jardinier.
Bonjour à tous, eh bien voilà, c'est la grande période du ramassage des feuilles. Bon, ça, on aurait pu déjà commencer un petit peu plus tôt, disons on va poursuivre le ramassage. Alors ces feuilles, elles sont très utiles pour le jardin, faut surtout pas les emmener à la déchetterie. Utile parce qu'on peut en faire un excellent terreau de feuilles. On peut aussi bien les utiliser aussi comme paillis dans le potager. On peut les mettre entre les légumes. S'il n'y a pas de légumes, on peut tout simplement les disposer sur le sol en les tassant un tout petit peu. On peut les mettre dans les massifs, on peut s'en servir comme protection. Alors l'avantage du terreau de feuilles, lorsqu'on l'a composté, sachez qu'il faut compter une dizaine de mois pour réussir son compost jusqu'à 2 ans, c'est un excellent compost ou terreau pour les plantes acidophiles. J'entends par là les plantes dites de terre de bruyère, les rhododendrons, les azalées, les camélias, les érables, enfin les érables du Japon. Enfin, toutes ces plantes qui n'aiment pas le calcaire. Et dans la région, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calcaire. Donc, on conserve surtout ces feuilles. Alors, surtout, n'allez pas prélever des feuilles dans les bois, puisque vous allez déshabiller Paul pour habiller Jacques, hein, puisqu'elles sont utiles aussi pour les arbres. Alors, il y a une petite polémique. Doit-on ramasser les feuilles sur la pelouse quand on a un arbre au milieu? Oui, quand ça gêne un petit peu, sinon on les rassemble au pied des arbres. Car ces feuilles vont les nourrir en humus. Voilà pour les feuilles mortes. Alors actuellement, dans son appartement, on a rallumé le chauffage hein, avec les premières fraîcheurs. Bon, ça va encore à peu près pour cette semaine. Mais le chauffage est quand même allumé. Et on a plutôt un air déshydratant. Vous savez, vous en apercevez le matin ou pendant la nuit, lorsque ça, vous avez une sensation de bouche sèche ou de nez un petit peu desséché, ça vous gratte un petit peu au fond de la gorge, eh bien, c'est un manque d'hygrométrie. Eh bien, il faut savoir que les plantes aussi souffrent du manque d'hygrométrie. Alors, pour augmenter l'hygrométrie, c'est simple, il pleut bergère, on récupère de l'eau de pluie, et on pulvérise le plus souvent possible les feuilles des plantes vertes au-dessus et en dessous. Alors toujours avec une eau douce, hein, une eau qui doit être à la température de la pièce, et vous placez votre bouteille d'eau, si vous en avez plusieurs, toujours dans une pièce noire, dans l'armoire, hein, tout simplement. Toujours, surtout pas à la lumière, car l'eau risque de verdir. Voilà pour les plantes vertes à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? C'est la Sainte-Catherine quand même, hein, c'est la semaine de la Sainte-Catherine. Il faut planter, il faut continuer à planter des arbres et des arbustes. Alors, on préfère actuellement les arbres à racines nues. Alors, vous allez chez les pépiniéristes, vous savez que des arbres à racines nues, c'est des arbres qui n'ont pas été cultivés en pot. Alors, souvent, ils sont plus développés. Je n'ai rien contre la culture en pot ni en conteneur. Mais à cette époque-ci, profitez quand même des racines nues. Alors, vous allez les trouver chez les pépiniéristes. Il y en a peu hein, maintenant dans la région. Il y en a un petit peu dans les Ardennes. Il y en a un peu dans la Marne. Des pros, quoi. Enfin, puis après, il y a des personnes qui revendent aussi des arbres à racines nues. Mais de plus en plus rares, il faut bien le reconnaître. Alors, en ce moment, on plante les arbres fruitiers, les pommiers, les poiriers, les cerisiers. Enfin, je ne vais pas vous les énumérer. N'oubliez pas aussi les petits fruits. Alors, les petits fruits, on les trouve pas toujours en racines nues, sauf, si vous allez chez un pépiniériste, vous pourrez trouver des groseilliers et des cassissiers, mais vraiment, presque en motte. On peut aussi bien les avoir en motte, donc ce sont des plantes déjà bien développées qui vont rapporter, pas l'année prochaine, mais la deuxième année de culture, ce qui est intéressant. Vous savez qu'on est toujours pressé lorsqu'on plante des arbres fruitiers. Alors actuellement aussi, puisqu'on parle de la Sainte-Catherine, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine, donc le bois, ben, c'est des boutures, je l'avais déjà évoqué la semaine dernière, c'est des boutures à bois sec qu'on va faire, donc des boutures à bois sec, c'est-à-dire que ce sont des boutures d'arbres ou d'arbustes à feuillage caduc, ceux qui ont perdu leurs feuilles, on va prendre des exemples, hein, les rosiers, l'osier, les arbustes à fleurs, vous les plantez directement en pleine terre. Vous les enfoncez, vous faites des boutures de 20 cm, vous les enfoncez sur 10 à 15 cm, vous laissez passer 2 yeux, et puis vous aurez directement des plantes là où vous le souhaitez. Mais disons que le plus simple, en principe, ça se fait un petit peu autrement, on fait des bottes, on rassemble une dizaine de boutures qu'on coupe de 20 cm, toujours des boutures saines, hein, des rameaux sains. Vous les liez, vous les étiquetez, bien sûr, vous les enfoncez dans du sable, dans un endroit plutôt au sec, au nord, et puis vous les plantez seulement à partir du mois de mars. On peut aussi bouturer directement dans des pots et puis les rempoter un petit peu plus tard et vous les plantez l'année prochaine au mois de novembre. Voilà, concernant tous les travaux qu'on peut faire actuellement dans son appartement, n'oubliez pas que c'est bientôt la Saint-Nicolas et que c'est le moment aussi d'acheter des poinsettias, les étoiles de Noël. Alors surtout que ce sont des plantes qui fleurissent, qui se colorent plutôt naturellement en ce moment. Ça vous donnera de la couleur dans votre appartement. Et puis si vous en avez une, vous êtes procuré l'an passé une étoile de Noël et puis qui est toujours verte, surtout ne l'exposez pas à la lumière. Ne lui faites pas regarder la télévision tous les soirs, elle ne se colorera pas. Mettez-la dans une pièce qui est normalement éclairée et qui bénéficie, allez, pas plus de 12 heures de jour par jour, hein, surtout pas les mettre dans le noir, pour qu'elle se colore naturellement. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et un très bon week-end.
Merci à vous Hubert le jardinier pour cette nouvelle chronique du jardin d'Hubert et on continue notre programme sur RCF Reims-Ardennes. J'espère que vous avez de quoi noter puisque l'agenda diocésain pour le diocèse de Reims et des Ardennes est assez chargé. Voici Bénédicte Cousin et Emma, elles nous présentent Vie diocésaine.
Bonjour à tous les auditeurs de RCF Reims et Ardennes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents événements à venir dans notre diocèse. Ce dimanche 1er décembre a lieu une adoration eucharistique guidée et chantée avec le père lazariste Jean-Yves Jaffré, qui est un prêtre en mission, de 16h à 18h au sanctuaire Saint-Antoine des Hauts-Butés.
Dimanche 1er décembre, concert familial avec Sœur Agathe. À l'occasion d'un concert, venez découvrir les différents livres CD de Sœur Agathe à l'église Saint-André de Reims à 14h dimanche 1er décembre, suivi d'une vente de livres CD dédicacés.
L'espace missionnaire de la Vallée de la Suippe vous invite à participer à une marche pour la paix le dimanche 1er décembre à 10h avec un départ place de la mairie de Fresnes-lès-Reims. Et au programme, il y aura des chants, des temps de partage et également des temps de lecture de témoignages.
Lundi 2 décembre, le groupe de prière de l'espace missionnaire Reims Sud vous propose un temps de louange, de partage et d'adoration de 20h30 à 21h30 à l'église Saint-Pierre de Reims.
Toujours le lundi 2 décembre, c'est la communauté de l'Emmanuel qui vous propose une école de prière et d'adoration qui se déroulera de 20h45 à 22h à l'église Saint-Maurice. Et au programme, donc vous participerez à une adoration, des temps de louange, mais également des temps de topo.
Mardi 3 décembre, grande conférence Dieu et la source. C'est une conférence proposée sur le thème Dieu et la source qui a lieu le mardi 3 décembre au lycée Saint-Joseph de Reims, animée par Monsieur Harry Roselmack, journaliste et écrivain, et le philosophe Gérard Lemarié.
L'espace missionnaire Reims-Ouest propose une veillée de guérison le vendredi 6 décembre de 19h à 20h à l'église Saint-Louis de Reims. Et au programme, vous aurez des temps de louange, des temps de la parole, mais également d'adoration.
Le 6 décembre, les sœurs Clarisse de Cormontreuil vous invitent à passer un temps de partage d'évangile du dimanche. Donc le vendredi 6 décembre de 17h à 17h50 et pour ceux qui le désirent, une messe a lieu à 18h à la chapelle du monastère.
Cette année, le samedi 7 décembre, vous trouverez Saint-Nicolas priant pour la paix dans l'église de Tillet, à Aulmé, dans l'espace missionnaire Ardennes Nord. Donc vous êtes invité à vous joindre à lui, à cheminer à ses côtés jusqu'à l'église de Aulmé, où vous réfléchirez sur le sens de la prière, pourquoi, pour qui, quand ou comment. Et après, vous aurez l'occasion de partager un goûter dans la salle des fêtes du village, où vous ferez un retour à Tillet et vous pourrez également participer à une messe qui sera célébrée à partir de 18h.
Le 7 décembre, journée de prière pour la défense de la vie. Comme chaque année, une journée de prière pour la défense de la vie est proposée en l'église de Attigny, dans l'espace missionnaire Ardennes Sud. Le samedi 7 décembre, au programme à 9h, la messe, suivie de l'adoration du Saint-Sacrement en continu toute la journée jusqu'à 16h30. Et à 16h30, les premières vêpres du deuxième dimanche de l'Avent.
L'association familiale catholique de Reims organise sa troisième édition du marché de Noël le samedi 7 décembre à partir de 9h30 jusqu'à 17h30 dans la grande salle paroissiale de l'église Saint-André à Reims. Et c'est l'occasion pour vous de trouver sur place un large choix de produits grâce à de talentueuses créatrices. Et l'entrée de ce marché se fait aux 2 et 4 rue Raymond Guyot à Reims. Et l'entrée est également possible avec quelques places de parking avenue Jean Jaurès. Et à partir de 15h30, un stand convivial de crêpes et de gaufres sera présent pour régaler petits et grands.
L'espace missionnaire de la vallée de la Suippe vous invite à participer à une halte d'avant le samedi 7 décembre de 10h à 16h au monastère Saint-Thierry, chez les bénédictines, au programme enseignement, partage, jeu de prière.
Le dimanche 8 décembre, vous êtes invité à participer à une après-midi missionnaire de 15h à 18h à la cathédrale Notre-Dame de Reims.
Pour accueillir les visiteurs, leur faire découvrir simplement la joie de Marie par une bougie déposée, une prière ou un temps d'accueil. Rendez-vous pour tous ceux qui souhaitent être missionnaires ce jour-là avec une formation proposée par la Fraternité Missionnaire Diocésaine à 14h30, donc le dimanche 8 décembre. Rendez-vous devant l'orgue de chœur. Et vous pouvez vous inscrire aussi sur le site de la paroisse de la cathédrale ou à l'accueil de la paroisse pour cet après-midi missionnaire. Boisson chaude prévue pour tous ceux qui seront là pour accueillir les visiteurs. Merci à tous. Vous pouvez retrouver toutes les informations que nous venons de partager dans la rubrique de l'agenda du diocèse sur le site internet du diocèse www.catholique-reims.fr. Bonne semaine.
Vie diocésaine avec Bénédicte Cousin et Emma Japin sur RCF Reims Ardennes, comme chaque semaine, à découvrir le dimanche, donc à 10h20. Pour l'heure, il est 10h28 et comme chaque dimanche, vous en avez l'habitude, on retrouve Parole d'évêque, émission en alternance avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims, et Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire, tous deux au micro de Jean-Pierre Benoît. Et aujourd'hui, c'est Mgr Éric de Moulin-Beaufort que nous écoutons.
Parole d'évêque, Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Mgr Éric de Moulin-Beaufort, bonjour, vous êtes en studio.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, pour une fois, je suis en studio.
Oui, oui, et c'est avec beaucoup de plaisir. Vous êtes de retour, on va l'évoquer, du Sénégal pour une ordination. Comment ça s'est passé, Monseigneur?
Donc j'allais au Sénégal pour à Ziguinchor, très précisément pour l'ordination de l'évêque de Ziguinchor, qui a eu lieu après deux ans d'attente, presque deux ans et demi. Je pense que les diocésains savent que nous avons quatre prêtres de Ziguinchor dans notre diocèse, qui sont au service de l'espace missionnaire de la vallée de la Suippe. Et c'est l'occasion pour moi de les saluer, de les remercier. J'étais accueilli là-bas par le père Jacques Messania, et aussi par le père Olivier Colli, qui a été jusqu'à il y a deux ans, dans la paroisse de Vitry-les-Reims, et puis après dans l'espace missionnaire de la vallée de la Suippe. Voilà, c'était un moment très intense, je dois dire, une célébration d'ordination d'abord, le samedi, puis le dimanche, une célébration de l'installation dans la cathédrale. Des moments très, très intenses, avec une très belle foule, une grande ferveur, une très belle qualité liturgique. Et puis j'ai trouvé vraiment des homélies, des discours, aussi bien de l'évêque nouvellement installé que de celui qu'il a installé, qu'il a ordonné, que des politiques sénégalais présents. J'ai trouvé vraiment de très 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 intéressant, très très riche. Voilà, on sent un grand dynamisme ecclésial dans un pays qui reste quand même un pays pauvre, mais qui espère être en bonne voie pour se construire. Un monde très jeune, plus de, je crois que 70% de la population a moins de 30 ans. Donc évidemment, ça fait un autre aspect que notre pays, que nos rues. Et puis, c'est un grand défi parce que à toute cette jeunesse, il faut donner du travail. Donc voilà, comment annoncer l'évangile, comment l'évangile peut être un facteur d'espérance, de fortification, de formation intérieure, et puis aussi de réconciliation, car la Casamance était une zone marquée par la guerre, jusqu'à il y a peu d'années. Tout ça, c'était des belles questions qui ont été agitées, portées pendant tous ces jours.
Alors, il faut dire que le Sénégal, la Casamance, ça peut être beaucoup de choses à nous apprendre. Vous avez été frappé par quelques images de ces trônes, de ce qu'on pourrait appeler ici des cathèdres, avec des gens enracinés dans un territoire.
J'ai été très marqué par certains discours de l'évêque, oui, qui a étudié les royautés coutumières de la Casamance, et donc qui a très bien, en célébrant la fête du Christ roi, a bien, commenté un certain nombre de symboles du Christ, qui est assis à la droite du Père, comme voilà, ces rois de Casamance sont installés sur un siège qui marque qu'ils sont un facteur de stabilité, de communion avec les forces de la nature, puisque les pieds du trône s'enfoncent dans la terre, etc. Bon, il y aurait beaucoup à développer, mais ça dit bien quelque chose de la manière dont les sociétés humaines cherchent des principes de stabilité, d'unité, cherche à régler la violence qui est interne, qui les compose. Et ce qui est intéressant dans les royautés de Casamance, c'est que le roi n'a pas de soldats, il n'a pas d'armée, à part les fétiches, mais donc il n'exerce pas la force physique, au contraire, ou militaire, au contraire de nos rois chez nous.
Ça veut dire qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, et peut-être qu'un jour, ici, dans cette terre de Clovis, enracinée aussi dans une histoire, il y a peut-être des choses à faire, Monseigneur, pour l'avenir.
Oui, tout à fait. En tout cas, il y a pour nous à approfondir nos liens avec le Ziguinchor. C'est bien que j'y sois allé. Le père Thierry Bettler, vicaire général, y est allé plusieurs fois. Le Monseigneur Feillet y était allé. Mais il faudrait que nous y allions avec tout un groupe de parois de diocésains pour renforcer les liens, et c'est quelque chose qu'il va falloir construire.
Monseigneur, dans l'actualité, on l'a entendu tout à l'heure, il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde, d'inquiétudes, et nous entrons demain dans l'Avent, dans un chemin d'espérance. Vous entrez vous aussi dans l'Avent. Qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous dites aux diocésains aujourd'hui, Monseigneur?
Alors je reprends une formule de l'évêque de Ziguinchor, hein, qui disait nous quand nous levons les yeux, nous voyons le Christ assis à la droite du Père, et c'est une promesse de stabilité, de victoire. La fin de l'histoire, ce n'est pas le chaos, le néant, mais c'est donc encore une fois le règne du Christ. Voilà, donc pour nous, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'avènement. Avant, ça s'écrit avec un E parce que ce n'est pas avant Noël, mais c'est l'avènement. Nous célébrons l'avènement du Christ, l'avènement. C'est sa venue dans la chair il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, mais aussi sa venue glorieuse. Donc la fin de l'histoire de l'humanité, ça n'est pas la dispersion de tout ce que nous aurons construit, mais la récapitulation, au contraire, de tout ce que nous aurons les uns et les autres essayé de faire dans l'ordre du bien, du vrai, du beau, du bon. Donc, comme nous le dira la deuxième lecture de ce dimanche, hein, il faut nous être rempli d'un amour de plus en plus intense et débordant entre vous et à l'égard de tous les hommes. Voilà, donc dans ce temps difficile, nous chrétiens, tous les temps sont difficiles, celui-ci, nous sommes l'est spécialement, et pour un certain nombre d'entre nous, il est plus qu'à d'autres moments, eh bien, il nous faut être rempli d'un amour intense et débordant entre nous, mais aussi à l'égard de tous les hommes. Et là, je trouve que c'est un beau programme.
Sur le plan pratique, vous allez rencontrer des jeunes, des distributions de ces calendriers de l'Avent qui, chaque jour, vont nous ouvrir des portes d'espérance, d'une certaine façon.
Voilà, c'est une belle formule, Jean-Pierre. De fait, notre diocèse, avec quelques autres diocèses, mais notre diocèse est un peu meneur dans cette opération.
Et vous êtes 22 maintenant.
Depuis quelques années, il y a 22 diocèses qui se sont joints à cette opération. Voilà, notre diocèse, avec d'autres, construit chaque année un calendrier de Noël dans lequel il n'y a pas de chocolat ni autre futilité, mais des petites histoires qui permettent de se préparer à Noël, je vais les distribuer à un ensemble de ces calendriers dans l'école Saint-Louis, aujourd'hui à Reims. Voilà, c'est une manière de marquer le temps, de le rythmer, d'apprendre à attendre sans le vivre, vivre l'attente comme une frustration, mais au contraire comme un creusement du désir et une attente plus, pour une attente plus forte et pour une joie plus grande.
Rendez-vous donc tout au cours de ces semaines sur RCF et avec vous. On aura l'occasion de vous retrouver. On parle beaucoup également du pape en Corse. Bon, c'est un événement qui sera commenté. Et vous allez sans doute y participer, Monseigneur, peut-être ?
Alors, comme président de conférence des évêques, oui, je serai en Corse pour accueillir le pape, car la Corse, c'est tout de même la France. Donc, c'est mon devoir. Oui, ben le pape donc ne sera pas venu en France, au cœur de la France, ne sera pas venu à Paris, ne sera pas venu dans des grands lieux évidents, mais il sera allé en plusieurs lieux un peu de tension ou de peut-être pas de fracture. Je laisse les Corses juger leur situation, mais en tout cas où notre modèle républicain est un peu mis en cause. On se rappelle, voilà, la France, elle a un cœur qui a une vieille histoire d'unité très, très forte, et puis elle a des marges que l'histoire lui a apportées, et qui se trouve plus ou moins à l'aise, dans lesquelles il y a toujours à chercher davantage comment construire une unité plus riche. Voilà. Et puis le pape vient parce que la Corse est en Méditerranée, surtout, donc il poursuit son travail vraiment sur la Méditerranée, parce que le pape est persuadé que la mer Méditerranée en elle-même et tout ce qui l'entoure, est un peu un symbole et un lieu propice pour vivre les grands défis de l'humanité, en particulier l'unité de l'humanité à travers des civilisations, des cultures, des religions différentes. La mer sépare, mais elle réunit aussi, elle permet d'aller de l'un à l'autre. Et par conséquent, il vaut la peine de réfléchir à l'unité de l'humanité.
On aura l'occasion de revenir sur tout cela dans une actualité, vous avez dit, qui est toujours difficile. En ce moment, il y a des problèmes sociaux également qui se posent dans notre région. Reims Aérospace, Valeo, pas mal de choses.
Ça fait dans les Ardennes
aussi. Dans les Ardennes également.
Il y a quelques fermetures. Et
du côté de Vouziers.
D'usines, ArcelorMittal.
ArcelorMittal également.
Etc. Oui, on est à un moment difficile, hein, et vraiment, je vais avoir une pensée pour... toutes les personnes dont l'emploi est menacé, qui se demandent de quoi demain va être le fait. C'est le cas aussi des agriculteurs. Voilà, mais dans ce temps, puisons dans le Christ l'espérance que, encore une fois, le chaos n'est pas le dernier mot de l'histoire.
Merci, Monseigneur. Jour à la veille de l'Avent, jour d'espérance. Très bonne journée.
Merci à tous. Merci
à bientôt.
Toutes. Au revoir,
bientôt.
Jean-Pierre.
En ce dimanche matin sur RCF Reims-Ardennes, c'était Parole d'évêque avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, donc au micro de Jean-Pierre Benoît. Il est 10h38 en ce premier dimanche du temps de l'Avent. Voici Croyant d'hier et d'aujourd'hui de Béatrice. Aujourd'hui, elle nous propose de consacrer son émission à Saint-André.
Bonjour, nous partons aujourd'hui à la découverte de saint André. André était un juif de Bethsaïde en Galilée sur les bords du lac de Tibériade. Avec son frère Pierre, il vivait de la pêche. C'était un assoiffé de Dieu. Il avait entendu la prédication de Jean le Baptiste et reçut sans doute le baptême de pénitence et devint l'un de ses disciples. Il discerna l'exacte mission de Jean. Aussitôt, quand il entendit désigner Jésus, « Voici l'agneau de Dieu », il le suivit pour ne plus le quitter, devenant le premier disciple appelé par Jésus. Dès cet appel, André devient apôtre, avant même d'en avoir reçu le titre. Il rencontre son frère Pierre et le conduit à Jésus. Il est l'homme qui sait nouer des contacts. Lors de la multiplication des pains, c'est André qui amène le jeune garçon portant ses 5 pains et ses 2 poissons. Quand des Grecs veulent rencontrer Jésus, c'est à lui qu'ils s'adressent tout naturellement. Après la Pentecôte, il partit prêcher l'Évangile au cours d'un long voyage tout autour des côtes de la mer Noire. Ses voyages l'amenèrent en Mésopotamie, en côte anatolienne, à Éphèse, dans la région aussi du Bosphore, en Crimée, à Byzance, et finalement en région du nord du Péloponnèse. où il finit crucifié sous l'empereur Néon, à Patras, en Grèce, en l'an 60, comme son frère Pierre, qui mourut aussi crucifié dans le cirque de Néron, mais à Rome. Son supplice fut ordonné par le proconsul de la région, dont saint André avait converti l'épouse et qui lui avait offert l'alternative suivante, sacrifier aux idoles ou mourir sur la croix. Ayant choisi le martyr, l'apôtre survécut pendant 2 jours, durant lesquels il prêcha à la foule qui s'indigna et menaça le proconsul de mort. Celui-ci chercha donc à le faire descendre de croix, mais on ne put le délier et le saint mourut dans une grande lumière. Au IVe siècle, ses reliques furent transportées à Constantinople. L'église de Constantinople le vénère comme son saint patron. Le crâne de saint André avait été apporté de Patras à Rome sous le pape Pie II en 1462. Il fut considéré comme une des 4 plus importantes reliques de la basilique Saint-Pierre de Rome, avec un morceau de la croix du Christ pour la conserver. En 1964, le pape Paul VI restitua la relique de Saint-André à l'église de Patras. Dans la ville de Patras, on conduisit une grande église pour abriter le crâne et des morceaux de la croix de Saint-André, la basilique Saint-André. La tribu de Saint-André est la croix à branches égales, croix dite de Saint-André, sur lesquelles il fut martyrisé. Saint-Pierre et Saint-André sont frères de sang, outre leur parenté et tous les 2 pécheurs. Les 2 frères ont subi le martyre et de mourir crucifiés comme le Christ. Si Pierre est le premier des apôtres, Saint-André est le premier appelé. L'un est le fondateur de l'église de Rome, l'église occidentale, l'autre fondateur de l'église de Constantinople, église orientale. Lors de leur pèlerinage et de leur rencontre historique à Jérusalem sur le mont des Oliviers, le jour de l'Épiphanie 1964, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier se sont embrassés en signe de réconciliation. Le patriarche Athénagoras Ier offrit une icône représentant Pierre et André s'embrassant. Ce baiser des apôtres Pierre et André est devenu le symbole de la marche vers l'unité des églises sœurs d'Orient et d'Occident. Sous le patronage de saint André, outre l'église de Constantinople, la ville de Patras et le monastère du Cap Saint-André à Chypre, de nombreux lieux et communes de par le monde portent le nom de Saint-André, en particulier Santander, dont la croix de Saint-André figure sur le drapeau basque. L'Ukraine le considère comme le premier évangélisateur de Kiev et l'ordre de Russie, le plus prestigieux, était l'ordre impérial de Saint-André. La Russie actuelle a rétabli la croix de Saint-André sur les pavillons de ses marines de guerre, comme le faisaient autrefois les marins du tsar depuis 1690, sous le règne de Pierre Ier. En souvenir du patronage de Saint-André sur l'ancien état de Bourgogne, la marine belge arbore aussi un pavillon de la croix de Saint-André. Saint-André est également considéré comme le premier évangélisateur du territoire sur lequel se trouve actuellement la Russie, était célébré comme un des plus importants saints de l'orthodoxie roumaine. D'après Georges Alexandrou, Saint-André aurait passé 20 ans en ermite dans une grotte près d'un village nommé Ian Corvin, aujourd'hui en Roumanie. Saint-André est aussi le patron de la ville de Saint-Andrés à Tenerife en Espagne. Terminons par des paroles prononcées par saint Grégoire le Grand lors d'une homélie sur Saint-Pierre et Saint-André. Rien n'a été promis à Pierre et à André par le Maître. Ils quittent leurs biens. Il nous faut considérer plutôt la volonté que la valeur des biens. Ils quittent beaucoup celui qui ne gagne rien pour lui. Il quitte beaucoup celui qui abandonne tout ce qu'il possède. Pierre et André abandonnèrent l'essentiel, l'un et l'autre renoncèrent au désir de posséder. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle évocation.
Merci à vous, Béatrice, pour ce nouveau croyant d'hier et d'aujourd'hui consacré en ce dimanche, en ce premier dimanche de l'Avent à Saint-André. On va parler des patronages maintenant qui font leur retour un peu partout en France, dans tous les diocèses de France. Pour faire le point sur ce sujet, Bénédicte Cousin reçoit maintenant Sylvie Lahotte pour l'émission En route pour la mission sur RCF Reims-Ardennes.
Bonjour à tous les auditeurs de RCF qui nous écoutent à Reims et dans les Ardennes. Aujourd'hui, pour notre émission En route pour la mission, je reçois Sylvie Lahotte. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous.
Et alors aujourd'hui, Sylvie vient nous parler de sa mission au diocèse en tant que chargée de mission et de développement des patronages. Alors pour les personnes qui ont ce mot en tête, qui connaissent, peut-être que ça va les éclairer. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou alors pour qui le mot paraît un petit peu vieillot, eh bien nous allons voir avec Sylvie pourquoi c'est important aujourd'hui le développement des patronages et pourquoi elle a cette mission au cœur de notre diocèse. Sylvie, peut-être que pour les auditeurs, ce serait sympa que vous puissiez vous présenter.
Oui, alors Sylvie Lahotte, anciennement responsable de la pastorale des 12-18 ans, parce que je pense que beaucoup de personnes me connaissent dans ce cadre de mission. Et puis, donc depuis le 1er septembre, missionnée pour mettre en route des patronages, accompagner les patronages sur notre diocèse.
Et alors, à ce titre-là, est-ce que pour les auditeurs, vous pouvez expliquer ou donner une définition un petit peu large de ce que est aujourd'hui, en 2024, un patronage ?
Comme tu le disais, patronage rappelle des choses anciennes et on se disait il n'y a pas très longtemps, c'est comme les anciens prénoms. Beaucoup de jeunes maintenant s'appellent Joseph, Lucien, Léon, mais avec le caractère d'aujourd'hui. Ben, pour les patronages, c'est le même principe. C'est comment les patronages que certains anciens ont connus, enfin, anciens et moins anciens, j'ai connu aussi, et voilà, comment aujourd'hui les patronages sont une chance pour nos paroisses, pour nos quartiers, pour nos villages. Un patronage, ben, c'est une grande famille où chacun a sa place, où tous viennent pour recevoir, mais aussi pour donner. C'est un tiers-lieu d'éducation par le loisir, ça c'est très important. Et on va proposer des activités différentes, prenant en compte l'ensemble des réalités anthropologiques de la jeunesse, et puis avec ce caractère quand même de notre foi, c'est-à-dire où on va redonner la possibilité de prier. Le leitmotiv, c'est « ici on joue, ici on prie ». Et je crois que ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un patronage ? Ben, je dirais ce qu'on va y mettre. Hein, tout simplement. Voilà, vous avez des patronages où il y aura de l'aide aux devoirs, où il y aura des activités musicales, comment se réaliser à travers la musique, à travers le théâtre, après à travers des activités sportives aussi, après à travers l'art, la peinture, le dessin, enfin tout ce qu'on peut proposer aux jeunes aujourd'hui, dans un quartier, dans un village.
Mais alors du coup vous dites aux jeunes, mais c'est destiné à quel public ?
Alors c'est à partir de 6 ans. D'accord. On a principalement c'est ciblé pour les 6-11 ans et puis après on va cheminer avec les plus âgés, les 12-17 ans qui pourront aussi eux redonner aux plus jeunes ce que je sais pas de l'aide aux devoirs hein. Je vais prendre l'exemple d'un grand de 17 ans qui est en terminale à peu près à cet âge-là qui pourra aider en mathématiques par exemple. Alors, pas tout seul, hein, ils sont encadrés par un adulte, etc. Mais comment, c'est le fait de donner-recevoir. Comment on peut s'aider à tout ça? Alors, c'est vrai que c'est plus ciblé pour les 6-11 ans, parce que, évidemment, 6-11 ans, c'est la primaire. Donc, il n'y a pas cours le mercredi, il n'y a pas cours le samedi, alors que collège, lycée, il y en a qui ont cours. Donc, c'est plus vers eux que ça sera mis en place.
Mais alors du coup, je me mets à la place des parents, c'est un moyen de garderie pour les enfants ? Comment est-ce qu'on peut voir ? Comment est-ce qu'on peut le...
Oui, c'est un moyen de garderie, mais une belle garderie, c'est pas... c'est quand même un accompagnement autre qu'une garderie simple, parce que on va choisir avec les parents ce qu'on va mettre en place aussi. Quand on met en place un patronage, suivant les personnes qui vont être là, suivant le quartier, suivant le village, peut-être aussi, ben on aura plus besoin peut-être d'avoir un éveil musical, ou peut-être plus besoin effectivement d'aide aux devoirs. Je pense dans certains quartiers où il n'y a pas de maison de quartier. Hein. Sur Reims, on est quand même bien loti, mais il y a des lieux où il n'y a pas de maison de quartier, ben, il n'y a pas d'aide aux devoirs. Et puis, ben, les enfants sortent de l'école, c'est en général 16h30, 16h45. Bon, ben voilà, ils peuvent regagner un patronage où là, il y aura de l'aide aux devoirs. Ça peut être, je vous disais, dans les villages. Ben oui, si on veut que notre enfant ait un éveil musical, ben, des fois, il faut faire 10, 12 kilomètres, c'est pas possible non plus. On avait un exemple avec du basket. Comment pour apprendre à jouer au basket? En fait, les gens du patronage viennent chercher les enfants à la sortie de l'école. 16h30, l'école primaire ferme. Ils viennent les chercher et les emmènent directement. Et puis voilà, il y a le petit goûter et hop, on enchaîne. On a l'entraînement et puis petit match de basket.
Quand on vous entend, vous parlez de quartier, vous parlez à la fois de modèles en ville et de modèles à la campagne. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un patronage qui se ressemble. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que les parents émettront comme besoin et de ce que les adultes vont proposer, il y a toute une création ensemble de ce qu'on va pouvoir proposer à ces jeunes.
Oui, c'est ça la richesse du patronage, en fait. C'est pouvoir proposer quelque chose qui colle vraiment à la réalité du terrain. On peut pas dire, ben voilà, il y a tel patronage où telle heure à telle heure, il y a de l'aide aux devoirs, telle heure à telle heure, il y a du dessin, telle heure à telle heure, il y a ça. Non, ça, c'est pas possible. Ça va être créé en fonction des besoins. En fonction, je redis encore, de la réalité de terrain, de la proximité. Ça, c'est très, très important.
Et matériellement parlant, quand on dit que c'est un patronage chrétien, c'est que c'est porté par la paroisse dans les locaux qui sont ceux de la paroisse.
Oui, alors c'est souvent des locaux diocésains, hein, du coup. Hein. Oui, effectivement, alors, on ne peut pas implanter un patronage comme ça où on a envie, parce qu'il faut en amont vérifier qu'il y a les salles, que... Au niveau sécurité, tout est mis en place. Si on propose des repas, parce que peut-être qu'à un moment donné, pas demain, hein, mais à un moment donné, on proposera des repas, ben, il faut qu'il y ait la cuisine, il faut que tout soit aux normes de sécurité. Et puis, un endroit extérieur. Parce que c'est très, très important dans les patronages, justement, de refaire découvrir l'extérieur aux jeunes. Parce que, bon, à l'école, ils sont enfermés à part la cour de récréation. Quand ils rentrent chez eux, très, très peu jouent dehors. C'est malheureusement, enfin, faut que ça soit déterminé, mais on est sur les écrans ou on est à l'intérieur, quoi, en fait. Hein. Donc là, redécouvrir l'extérieur, ce que la nature peut nous apporter. Donc c'est important d'avoir quand même autour du lieu qui va accueillir le patronage, qui est un peu de verdure, qui est la place pour pouvoir jouer dehors.
Et donc vous venez nous présenter cette proposition de patronage parce que aussi vous avez reçu. Enfin, vous avez invité et reçu à Charleville et à Reims un jeune couple qui est venu parler d'un Tour de France qu'ils font des patronages. C'est assez exceptionnel.
Oui, l'essor des patronages a repris depuis, on va dire, 2018. Bon, il y avait le petit coup d'arrêt des Covid, comme pour tout. Et donc, ça a été remis en place. Là, actuellement, il y a 300 patronages sur la France qui se sont remis en place. Et donc, tous les ans, il y a le Tour de France des patronages. Et cette année, donc, c'est un jeune couple, Corentine et Henri, avec leur petit Joseph, qui font le tour des patronages en camping-car. Donc, ils visitent les lieux où il y a des patronages, où on les appelle. Hein. Ils n'ont pas fait les 300 patronages. Hein. Et puis, à travers leur voyage, ils passent aussi dans les différents diocèses et ils viennent présenter. Donc là, pour nous, on a eu une soirée à Reims, une soirée à Charleville, où ils ont présenté le patronage, mais on peut aussi les appeler pour faire une journée découverte. Ils nous ont expliqué qu'ils sont allés dans un patronage qui commençait seulement à démarrer, et où ils ont fait une chasse au trésor, alors avec des déguisements, ce qu'on peut présenter aussi, proposer dans un patronage, hein, mais là, ils l'ont fait. Alors c'était avec des seigneurs, des chevaliers, voilà, et c'est extraordinaire. Et il nous disait que les enfants adhèrent aussitôt, à n'importe quel âge hein, d'ailleurs, adhèrent aussitôt à cette proposition.
Alors du coup, ce jeune couple fait le Tour de France pour présenter, pour promouvoir, pour mettre en valeur et pour donner envie. Parce que je crois que ça a donné envie.
Ah oui, ça a bien donné envie. Alors, ils le font pour promouvoir, pour mettre en valeur, mais aussi pour voir des petits bilans. Parce que je vous disais, il y en a 300 sur la France. C'est bien gentil de dire, ah ben, allez, voilà, il y a 300 patronages. Mais c'est important pour l'incubateur, hein, c'est l'incubateur de patronage, ça s'appelle, c'est une organisation au niveau national. C'est important pour eux d'avoir le suivi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, ben, on a ouvert un patronage, tout va bien. Non, il y a toujours un suivi. Vraiment, il y a une aide derrière, il y a une organisation qui est incroyable.
Et qui aide, donc, cette organisation, s'il y en a dans notre diocèse qui vont voir avec vous comment ils ont envie d'avoir un lieu de se lancer dans ce projet, ils vont être soutenus, c'est ça qui est intéressant.
Oui. Donc, c'est une inscription. Alors, après, moi, j'étais donc missionnée par les évêques pour pouvoir mettre en place des patronages. On avait un peu regardé dans les lieux où on peut installer un patronage, parce que, comme je vous le disais, il faut qu'il y ait une structure quand même vraiment adéquate pour recevoir. Donc on avait ciblé un petit peu des quartiers, disons, qu'en se disant « Ah ben là, il y a du monde, ah ben là, voilà, il y a des lieux, etc. » Après, il faut monter une équipe. Parce que ça se fait pas tout seul quand même. Avec, bah là, on peut faire appel. Hein, si vous avez BAFDE, BAFA, au niveau diocésain, on est très preneur. Et donc, après, on avait ciblé ces lieux-là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait deux présentations avec le jeune couple, avec Corentine et Henri, et sur Reims et sur Charleville. Et effectivement, ça a donné beaucoup d'envie. Donc, on va reprendre les lieux qui ont envie. Il y a un lieu, notamment sur Charleville, où les religieuses de Bobo Dioulasso étaient prêtes à démarrer la semaine d'après. Bon, on démarre pas comme ça quand même, parce que pour tout ce qu'on vous disait au niveau de la sécurité, au niveau aussi du social, au niveau de la loi, parce que ça doit être encadré, c'est pour ça que je fais appel BAFA-BAFDE, parce que on a les lois de jeunesse et sport, on ne déroge pas, même si on est l'Église, on suit ce qui doit être remis. Et puis, une fois qu'on a ça, faut monter une association. Voilà, et après, l'association, on se développe. Mais on est aidé, effectivement, par l'incubateur. On a un tuteur. C'est pas compliqué, voilà, on a sur Paris, il nous envoie un tuteur qui peut rester avec nous plusieurs jours. Enfin, l'aide, elle est multiple.
Il va bientôt être l'heure de conclure notre émission, mais en tout cas, on retient bien qu'il y a un incubateur de patronage et des projets vraiment dans différents lieux, que s'il y a des gens qui sont diplômés pour les diplômes d'animateur, on disait BAFA et BAFA de directeur, eh bien, ils peuvent contacter parce qu'effectivement, c'est intéressant de pouvoir partir avec des gens formés, sinon on les formera, mais c'est sûr que c'est intéressant. Et puis, on vous souhaite bonne continuation dans cette mission pleine de projets.
Ben, merci, et j'espère revenir pour vous présenter tous les patronages mis en route sur le diocèse.
Merci Sylvie, au revoir.
Au revoir.